Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le lundi 17 décembre 2012. Bonjour et bienvenue au 7e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast bimensuel des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films, des séries que nous aimons. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site internet 24quarks.com. C'est 2QUARKS.com.
Alors, t'arrêtes à ça, cette joke.
Et sur iTunes, vous pouvez vous abonner gratuitement.
Non. Non, à chaque fois. Excusez-moi, êtes... on est un peu dilettante ce soir.
Ah ouais, hein, vous êtes... ils sont dissipés.
C'est le contraire de discipliner.
Ouais,
exact.
Cette semaine, on retourne dans les années 80, qu'on aime bien. On a déjà eu quelques films des années 80, hein,
enfin, bijoux,
3-4 déjà.
Et c'est bien les années 80, finalement.
Mais oui,
genre,
les...
ce que je dis tout le temps, c'est les années 80.
Mais ouais, c'est ma jeunesse, les années 80. Et avec donc cette fois, alors c'est particulier parce que c'est la première fois qu'on a un film d'horreur dans 24 Quarks.
Mais c'est ça, on se demandait si Battle Royale, on le considérait comme film d'horreur, mais on trouve que c'est comme trop over the top japonais comme par rapport. Là,
ouais.
C'est un vrai film qui nous fait peur.
Ouais.
Que t'es sur tes chaises puis que t'es comme genre.
Ouais. Non, l'autre c'était juste super violent. C'était juste
ouais,
super
l'autre,
violent.
L'autre, t'es pas en train de te demander qu'est-ce qui va se passer ou t'es pas comme un peu ouais. Sur le bord de ta chaise prêt à crier ou mettre tes griffes dans la cuisse de ton chum, mon sang.
Donc, bien sûr, horreur et science-fiction. Et bien sûr, c'est The Thing de John Carpenter de 1982.
Aussi film de Noël.
Ouais, c'est notre film de Noël.
On est dans la thématique jusqu'au bout.
Il y a la neige et tout.
Ça. Il y a la neige, les guirlandes de Noël aussi.
Ouais, il manque plus que le traîneau. Et voilà, le film n'est malheureusement pas sur Netflix,
d'ailleurs, moi,
mais on peut
le
trouver un peu partout.
C'est une métaphore au Père Noël, d'ailleurs, ce film-là. Quand tu le regardes bien, là, on pourra en reparler.
Non. Oh, pose pas ta lettre.
Il y a les reines de Noël. Il y a le... Non, OK.
Est-ce que tu as bu avant de venir?
Non, on attend justement que tu aies fini de parler là, pour ouvrir la bouteille de vin. Dépêche-toi.
Bon, alors... Alors, bon, vous les avez reconnus, ceux qui m'accompagnent. Je suis Nicolas Petzilas. D'abord, je me présente pour une fois parce que je ne me présente jamais. Et donc, mes comparses, comme d'habitude, Olivier Sabineau et Marie-Louise Gariepi.
Salut, Nick.
Bonjour, Nick.
Ça va bien?
Oui, toi.
Oui, je vois que vous êtes chaud ce soir.
Ouais, on est prêts.
Parce que t'es là.
J'ai des petits buzz qui viennent de temps en temps, des petits bzzz. Je ne sais pas de quoi
des
ça.
Buzz
ah,
ou des
c'est toi
buzz.
Qui fais des
c'est
interférences.
C'est à quoi ça m'en
va
fort?
Peut-être.
Ah, mon Dieu. C'est à cause depuis que j'ai grillé le système d'opération, ça doit être ça.
Ah là 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 là. Et donc ce soir, pour le fun, pour accompagner le film et le froid et l'hiver et la neige qu'il y a chez nous aussi, pas seulement dans le film, et on a choisi un petit site de glace, c'est ça?
Et pas n'importe lequel, on parle ici du bonhomme hiver, pour encore une fois rester cohérent avec la thématique.
Bonhomme hiver.
un cidre de glace québécois qui vient de Saint-Théodore d'Acton, pardonnez-moi, okay. Qui a gagné des médailles, donc on est en bonne main ce soir, tout va bien.
Wow. Bien
wow. Et c'est la première journée de l'année où il y a des bonhommes de neige. On avait la neige pas aujourd'hui, je sais pas si
j'en
dehors.
Ai vu plein. Là,
il y a
comme...
quatre dans la cour d'école en face ici, là, c'est merveilleux.
Ça y est, c'est parti.
Et, voilà.
Et puis on est à quoi? 2-3 jours de la fin du monde aussi, il faut bien préciser.
Ouais,
c'est peut-être notre dernier podcast.
C'est peut-être notre dernier verre de vin. Allez, buvons.
Ouais.
Alors, profitons-en.
Juste pour avoir le petit son qui va avec, on est en audio.
Yeah.
Mais moi, je pense que le pape a dit que c'était pas la fin du monde. Juste pour vous
rappeler. Ah, si le pape l'a dit.
Le pape a toujours raison.
Maintenant qu'il tweet.
Le pape a toujours raison. Maintenant qu'il tweet. Ah oui, c'est vrai, il tweet maintenant.
Ben oui.
Non.
Oh là.
Il y a un compte Twitter.
Non.
Je te jure, t'as pas entendu la nouvelle.
On s'éloigne du sujet.
Ouais.
Non, on s'éloigne tout à fait du sujet, mais bon. Parce que mais on pourrait ramener le doting à une métaphore biblique quand même.
On peut-être.
Sûrement.
T'as pas une métaphore avec le Père Noël, tantôt.
On trinque avant d'attaquer le film.
Voilà.
Santé à tous. Et santé à vous de l'autre côté du micro.
Oh, ouais.
Il est bon? Très bon.
Ah, wow.
Nice.
On aimerait ça que vous soyez là, mais il y en a juste assez pour nous.
Et pan. Bon, allez, un petit résumé que j'ai trouvé sur la toile et qui a été rédigé par un certain Karl Boileau, que je ne connais pas, qui a d'ailleurs fait une analyse assez intéressante du film, qu'on peut trouver sur son site karlboileau.com. Allez, je suis sympa, je fais un petit plug comme ça pour quelqu'un que je ne connais pas.
Allons-y,
go, Karl, go.
On attend la...
En hiver 1982, dans une base scientifique située en Antarctique, 12 États-Unis, dont des chercheurs, apprennent que leurs voisins norvégiens se sont entretués suite à la découverte d'un engin spatial enfoui sous la banquise. Ces derniers avaient, semble-t-il, libéré des glaces une créature capable d'imiter à la perfection n'importe quelle forme de vie. La paranoïa s'installe et chacun se met alors à douter des autres. Et
le meilleur du film, selon moi, c'est la paranoïa.
Hey, ça me fait réaliser, c'est exactement le même synopsis que Die Hard 2. Non, ok.
Film de Noël aussi.
Oui, film de Noël aussi. Et c'est notre épisode de Noël, finalement.
Oui, ben c'est clair. On va ne faire que des analogies à des films de Noël.
Ok, c'est bien.
Puis toi, Nick, on va commencer par toi. Oui, c'est quand tu as vu ce film-là?
Je n'ai pas vu le film en 82, parce que je devais avoir quoi, genre 14 ans, un truc comme ça. Puis j'étais un peu moumoune à cette époque-là. J'allais pas trop... j'étais pas encore...
T'avais peur d'avoir peur.
Ouais, j'avais peur d'avoir peur. J'y allais mollo avec les films d'horreur que je voyais. Puis, mais j'entendais beaucoup parler de celui-là.
Par exemple?
Ouais, j'ai vu E.T. Parce que, oui.
La même année.
J'ai vu Blade Runner aussi.
La même année.
La même année. Mais non, la chose, je l'ai vu peu de temps après. Je ne me rappelle plus exactement quand, mais je l'ai vu pas au cinéma, mais sur cassette VHS.
Ouh, rétro.
Ouais, et c'était un vilain pan and scan. Mais j'ai quand même bien eu la trouille. Et puis, j'avais adoré. C'est une période où j'ai comme découvert un peu tous les films de John Carpenter, finalement. Puis très vite, c'est devenu un de mes réalisateurs que vraiment j'aimais beaucoup. Puis c'est ça, puis je suis rentré dans le cinéma d'horreur et tout ça à ce moment-là. Mais là, c'était...
John Carpenter, peut-être.
Ouais, à travers John Carpenter. Ouais. Puis après, je suis allé visiter d'autres trucs, le cinéma italien, machin et tout ça. Et donc, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Mais à l'époque, j'étais... un petit peu resté sur ma... Enfin, à la fin du film, j'avais l'impression... Et j'ai souvent eu ça avec les films de Carpenter. Je trouve que souvent, ils finissent un petit peu en queue de poisson, tu sais. Ça finit un peu...
Oui, ils finissent pas vraiment, en fait.
Ouais, ou c'est ça. Je sais pas comment on peut définir ça. Mais je trouve que dans tous les films de Carpenter, il y a comme... Enfin, moi, j'avais toujours l'impression que tout à coup, ça finit, tu sais. C'est comme... Il prend son temps pour mettre les choses en route, etc. T'as l'action, ça se passe, machin. Et tout à coup, hop, c'est fini.
Okay, c'est pas une chute traditionnelle.
C'est sûr qu'il n'y a pas un espèce de gros final.
C'est presque une blague, justement, dans ce film-là. Ouais. La fin, on pourra en reparler, mais c'est presque une blague. Parce que justement, ça pourrait être comme qu'il y a un sursaut de fin après la. Tu sais, t'as des grosses apothéoses, ben, comme dans Alien. Là, c'est comme la grosse fin, le plateau explose, puis après ça, pouf, la bébête est dans la cabine. Quand les deux gars s'assoient, ils se regardent, puis ils sont comme genre. Tu pourrais être la chose, je pourrais être la chose. Ouais. C'est que les deux pourraient être la chose, puis ils font juste genre boire du whisky, puis ça finit de même, tu sais.
Qu'est-ce que tu ferais, toi, à leur place?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça répète un sursaut, justement, où est-ce qu'il y en a un qui explose, puis qui devient la chose, puis l'autre va le tuer,
c'est bizarre. Moi, j'avoue que ces fins sont souvent comme ça, mais celle-là est particulièrement bien.
Je l'aime, la fin, là. Je dis pas que c'est un défaut du film. Moi, je trouve que c'est une qualité.
Mais alors, voir après, je veux dire, depuis, je l'aime cette fin, tu sais, je l'ai vu tellement de fois depuis ce film. Et je le connais quasi par cœur. Mais ça ne me dérange plus, là. Ça me gêne plus. Il y a peut-être un petit moment. Ça, on en reparlera plus tard. En tout cas, film que j'aime beaucoup. Depuis quasi la première fois que j'ai vu, c'est là que j'ai découvert Rob Bottin aussi. Et ses effets spéciaux, ses maquillages incroyables.
Je pense que le monde entier a découvert Rob Bottin.
Ouais, puis c'est devenu mon héros, quoi. Parce que voilà, Robocop, c'était lui aussi. Enfin, en tout cas, une partie du design de l'armure. Il y avait Legend, il y avait tous ces trucs-là. Enfin, plein de films, on en parlait tout à l'heure avant de débuter. Mais donc voilà, quoi. Donc, un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Un film, c'est culte, quoi.
Oui.
Quasiment,
ouais,
je le mets au niveau film culte.
Puis toi, Olivier? Toi qui es expert de ce film, si j'ai bien compris.
Mon Dieu, j'ai vu, c'est un des films que j'ai peut-être dans ma liste de films que j'ai le plus vu. C'est particulier, j'ai un petit peu la même opinion que toi par rapport à John Carpenter. Il est vraiment dans mon top 3 de réalisateurs préférés de tous les temps. et je l'ai découvert un peu sur le tard. En fait, j'avais vu plusieurs de ses films sans savoir nécessairement que c'était de lui. Et The Thing, j'ai vu ça pour la première fois, ça doit faire, hey, mon Dieu, pas plus que 6-7 ans. Comme ça, je m'en, en me mettant à louer tous les films d'horreur et de science-fiction avec le vidéo, à un moment donné, je tombe sur lui, je l'ai pas vu. J'ai pas une bonne opinion en partant, je l'écoutais avec un regard très négatif et ça m'a jeté sur le cul.
Tu veux dire que tu commençais le film, là, puis après 10 minutes, t'étais comme ce quoi, ce bébé-là, puis à un moment donné, t'as fait comme...
Non, c'est la pochette, moi, c'est la l'effroyable chose de Thing, ça, ça a l'air d'un film cheesy de série B quand t'as aucune idée c'est quoi le film, quand t'en as jamais entendu parler, ce qui était mon cas. Fait que j'ai regardé ce film-là avec quoi le mot que je cherche, un précédent négatif.
Un
préjugé négatif, merci. Et puis, ça m'a vraiment jeté sur le cul. Je pense que de la première à la dernière image, j'avais les yeux grands qu'écarquillés, la bouche ouverte et puis un coulis de bave. Vraiment. C'est bon, John Carpenter, qui est un gars qui n'a pas juste fait des bons films, il a aussi quelques navets grandioses.
Ah, ouais.
Et, mais celui-là est dans pas mal ses meilleurs qu'il a fait maîtriser d'une main de maître.
C'est son préféré de que lui.
Il l'a dit souvent. Puis c'est un film que je regarde 3 fois par année. Puis ça, je dis que c'est un spécialiste, mais c'est un film que je redécouvre à chaque fois. Toujours un petit détail que je vois que je n'avais pas vu avant. Puis c'est toujours un grand plaisir de le voir.
C'est
un petit chef-d'œuvre du genre.
Ouais. Et toi, Marie-Louise, alors?
Moi, écoute, j'ai une drôle d'histoire avec ce film-là parce que c'était le film... Bon, je savais que c'est un remake d'un film des années 50, donc j'avais comme toujours un préjugé contre les remakes.
C'est pas un remake, c'est une réadaptation.
Je sais, mais à l'époque, je veux dire, je le voyais. C'était le film là, qui était comme genre coté 2 dans le TV Hebdo. Il y avait une bonne cote ou qui était dans le guide. Je pense que c'était dans le guide
deux,
de la boîte.
OK, 2 sur 3, tu veux dire.
C'est dans le guide du TV Hebdo, il faut que tu saches, un, c'est les chefs-d'œuvre, c'est les Bergman, puis compagnie. Là, puis après ça, tu as 2 très, très bons pour 3, 4, 5, 6, 7. C'était vraiment la merde totale. Et beaucoup de beaucoup, tu veux dire beaucoup de 7 à TVA aussi qui passaient.
Même s'ils pouvaient mettre 8, ils...
c'était une façon, c'est une façon de...
Moi, je ne connais pas.
C'était des codes qui sont quand même assez bien faites. C'est du monde sérieux et tout, qui essaie justement d'évaluer les films pour te donner une chance. Ce n'est pas le TV Hebdo. Ils prennent ça d'une espèce d'association cinématographique du Québec.
Puis un film ne peut pas devenir 1, même 2, avant un certain temps.
Ouais,
va aussi avec son vieillissement. Puis reste
c'est
aussi
ça. Tu peux évaluer un film 2 quand il vient de sortir.
Je pense que la cote 2, maximum, c'est 3 même.
Non, mais 2, ça arrive qu'il y en donne des... Ouais, il y en a que c'est comme assez évident. Là, je pense que genre Schindler's List ou des films de même, là, que c'est assez évident, mais c'est très, très rare qu'ils vont donner un 2 au départ. Mais bref, puis il y avait aussi dans la boîte noire, il y a le guide aussi qui te mettait des films en perspective. Donc, je savais que c'était un film intéressant, là, qu'il y avait du monde qui en parlait et tout. Puis moi, j'ai jamais été comme une fille qui était capable de voir du cinéma d'horreur facilement. C'est pas que j'aime pas le cinéma d'horreur, c'est que j'embarque tellement à fond, tu sais. Donc, c'est toujours été un dilemme. Quand j'ai envie de voir un film d'horreur, est-ce que j'ai envie de pas dormir pendant 3 semaines? Parce que ça a vraiment été ça. Moi, j'ai des films d'horreur là, que je faisais des cauchemars, je me réveillais la nuit, là, puis des trucs niaiseux de zombies et compagnie. Donc, ça a été long, là. J'osais pas voir le film et tout. Puis toi, tu m'en avais parlé, t'aimais beaucoup. Puis donc, pendant des années, je voyais la pochette et tout. Puis je regardais, j'étais toujours, j'ai envie de le voir en Alaska, je trouve ça cool. Un truc extraterrestre de la science-fiction. Oui, 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 c'est sûr, je vais aimer ça. Horreur, puis il paraît que c'est vraiment horrifiant. Puis quand Netflix l'avait, je l'ai écouté. Là, ils l'ont plus. Je comprends pas pourquoi. Ouais. C'est dommage.
Ben, les films expirent.
À cause
des deals,
de Criterion, peut-être.
Ils ont des deals avec certains distributeurs.
Je ne sais pas.
En tout cas, les films,
méfiez-vous.
Certains films
expirent. C'est ça, méfiez-vous.
Non,
mais quand vous pensez que vous allez pouvoir écouter le film 25
aussi,
fois.
Ils renouvellent certains droits. C'est ça. Et puis, donc, ils peuvent les
donc, je l'ai écouté sur Netflix l'année dernière, la première fois. C'est ça pour dire que ça a duré super longtemps, mon rapport. Ai-je envie ou pas de voir The Thing? Puis quand j'ai vu ça, j'ai tellement adoré ça. Parce que c'est vraiment over the top. Tous les effets spéciaux qui ont bien vieilli de... Bébites qui sortent de partout. Moi,
ça se voit bien.
Les gens, ils vont commencer à me connaître un peu. Quand c'est too much, ça me plaît bien. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait le film qui allait vraiment trop loin. J'aimais beaucoup Buñuel, j'aimais beaucoup
Bergman. Avec une grande classe.
J'aimais Fellini aussi. J'aimais dans le cinéma de répertoire, j'aime ces cinéastes-là qui vont trop loin. Puis quand c'est trop comme collé à la réalité, je suis comme genre, ben là, j'ai pas besoin de ça. Je vais aller... Je vais aller m'installer sur le galerie puis je vais regarder le monde passer. Donc, c'est ça. Voilà. Puis c'est bien fait aussi. C'est, ça. C'est pas juste comme over the top, n'importe comment. Là, c'est vraiment bien fait. Comme...
Non, c'est bien calculé.
Je vais critiquer quand même des petites choses parce que quand tu t'arrêtes à certains détails de scénario...
Quoi? Des critiques? Quoi?
Non, c'est un film parfait.
On reparlera du film parlé. On va écouter 2001 à un moment donné. Là, puis,
Il y a des longueurs.
Au niveau scientifique, c'est pas mal parfait. Là. Voilà.
On se regarde un petit extrait avant de partir dans le...
On s'écoute un petit extrait.
On s'écoute, pardon.
Maintenant qu'on ne se filme plus.
Ouais, maintenant qu'on ne se filme plus, on s'écoute un petit extrait. Allez.
You see, what we're talking about here is an organism that imitates other life forms, and it imitates them perfectly. When this thing attacked our dogs, it tried to digest them, absorb them, and in the process shape its own cells to imitate them. This, for instance, that's not dog. It's imitation. We got to it before it had time to finish.
Finish what?
Finish imitating these dogs.
Alors, la théorie.
Je ne suis pas d'accord.
Mais écoute, c'est sûr que des fois, la science-fiction, comme on l'a déjà mentionné, c'est comme le fantastique. Il y a un côté comme genre, on va supposer qu'il y a des êtres... Bon, déjà, l'extraterrestre qui rentre sur la Terre, les probabilités de ça sont comme extrêmement faibles. On ne rentre pas dans ces détails-là. On va supposer qu'il y a une intelligence... quelconque qui est capable de détecter qu'il y a de la vie sur la Terre puis qui s'y rend par un moyen quelconque, là, avec une navette spatiale ronde en soucoupe volante. Mais là, qu'il y a un petit problème assez évident, c'est au niveau de la... Je ne sais pas, il faudrait regarder le film plus attentivement, mais j'ai comme l'impression qu'au niveau de la conservation de la matière, c'est so-so, là. Des fois, ils bouffent des bébites, là, mais des fois, comme on dirait que à la fin, là, la bébite est vraiment grosse. Là.
Ouais.
T'sais? Puis c'est pas supposé être ça, là, t'sais. Donc ça, c'est des petits détails. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment du tatouinage. J'aime quand même le principe de base. Sauf que là, que moi aussi, j'ai décroché par rapport à l'extraterrestre, c'est que je me dis, un être aussi évolué que ça, est-ce que son trip, c'est vraiment d'aller sur la Terre puis bouffer tout le monde? T'sais, il y a comme... sans vouloir tomber dans l'espèce de romantisme du noble extraterrestre. Mais tu sais, tu dis...
C'est sûr que dans un sens, il arrive à bord d'une soucoupe volante, donc il y a... Effectivement, il y a une certaine intelligence,
ouais.
Mais la manière dont il s'alimente, mais dont il se répand, ou il se reproduit finalement.
Ben, c'est plutôt comme un virus,
c'est une
invasion.
Ouais. C'est clair que c'est comme un virus. Ouais. C'est comme un virus.
Puis ça, c'est clairement ce qui identifie un petit peu le principe de virus, épidémie, etc.
Ouais.
Ben, tu vois, moi, je suis la première personne...
Ben, ça ressemble à Alien aussi, d'une certaine façon.
Oui. Moi, je suis la première personne, quand scientifiquement, on me prend pour un épais, puis là, c'est un peu différent de ce que tu dis, toi, c'est peut-être des incohérences, mais en même temps, j'en ai une justification pour ce que tu viens de dire.
Sur le niveau de la conservation de la matière?
Oui, qui est expliqué dans le film.
Oui, il se nourrit des bébites.
Non, il ne se nourrit pas.
Il se reconstruit.
Il se reconstruit. Ouais. Ses cellules imitent celles de son hôte. Donc, ils peuvent changer de forme, changer de volume, ça, changer de grosseur,
changer de volume, non, c'est ça. Là,
ce qui fait l'intérêt de cette créature qui ressemble à rien.
Non, il peut changer de volume, mais je veux dire, tout ce que je veux dire, c'est que mettons que tu as 3 chiens à manger, tu ne peux pas devenir gros. Comme un mammouth. T'sais? Parce que tu avais juste 3 chiens au départ. Donc, tu peux venir court comme 3 chiens. Puis c'est comme la bébite de la fin, la dernière bébite était vraiment grosse. Elle sort de partout et tout, puis elle a mangé 3 gars. T'sais? Mais peut-être j'exagère. Faudrait que je le regarde attentivement.
Mais je pense pas qu'elle mange, elle se métamorphose. Mais comme,
peu importe qu'elle se métamorphose, c'est comme genre tu construis avec ce que tu as. Si tu as comme 3 mètres cubes de briques, tu pourras pas faire un gratte-ciel.
Ben, moi, je pense que c'est quand même insuffisant. Ouais, mais là, c'est des principes.
Là, tu parles de. Je veux dire, on ne sait pas c'est quoi ce.
C'est des principes de base de physique, de biologie ou de biologie extraterrestre aussi, si tu veux. Là. Tu sais, c'est la conservation de la matière.
Oui, mais si sa masse reste faible tout en ayant plus de volume, on reste dans l'équation d'Einstein.
Là, il n'y avait pas l'air d'être dans un truc avec une masse faible. Tu as les cartilages puis tout le bébel. Mais bon, ça, c'est un détail. Je ne pense pas qu'il faudrait t'attagouiner là-dessus. Moi, je vais t'en sortir une autre objection, un truc qui m'a vraiment énervé, mais vas-y.
Je suis la première personne qui, d'habitude, a vraiment de la misère à avaler l'histoire qu'on me raconte, parce que souvent, il manque toutes sortes d'éléments où j'ai l'impression qu'on me prend pour un épais, quand dans un film de science-fiction, plus souvent qu'autrement, il nous garoche un espèce de truc comme « Bon, acceptez ça maintenant pour qu'on puisse rentrer dans notre histoire. » Cette fois-là, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour nous expliquer d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Puis c'est une rare fois où c'est tellement bien fait là, au niveau de l'histoire, parce que l'histoire essaye pas de picosser dans ce sens-là. C'est vraiment un huis clos entre des personnages et de la grosse psychologie humaine dans une situation terrible. Fait que j'ai comme tout de suite embarqué puis je me suis jamais posé la question.
Alors, c'est pas le premier à. Oui, mais c'est pas un problème dans ce film-là. C'est pas un problème dans ce film-là, justement, parce que justement, il n'y a pas une proposition. La proposition que la bébite, elle va comme se servir de ta matière pour se transformer, elle marche. Là. Mm-hmm. Elle est logique, elle est simple.
Elle est simple, puis elle est vraiment de base.
On peut le concevoir, moi, même dans un point de vue scientifique dur, là, ce que vraiment, je picosse là, au niveau de la conservation de la matière. Là, parce que le reste, je peux y adhérer à cette idée-là. T'sais. Puis c'est simple, puis c'est ça. Moi, je pense que la proposition fonctionne. Mais il y avait un autre détail qui m'énervait, c'est que le sang contaminé et tout, là, si c'est vraiment contaminé puis qui contient la chose, là, quand le gars il se coupe puis il s'essuie le couteau sur le pantalon, il va se couper.
Tu l'as vu cette scène-là?
Il y a des petits détails. On dirait que là, c'était avant l'épidémie de sida aussi, ah ouais. genre ouais. en 82. Mais tout de suite, j'ai vu des petits détails comme ça où est-ce qu'il y a du sang partout. C'est comme, tu te dis, OK, il y a comme, tu sais, si le sang, il bouge puis il rentre dans les veines du monde et tout, là, tu sais, okay,
c'était un bon point, là, quand même.
C'était comme, j'avais ouais, pas vu ça.
Ouais, mais c'est comme quand il fait son exposé, là, dans l'extrait qu'on a vu. Tu sais, il a son crayon, là, tu sais, il touche le truc avec son crayon. Après, tu le vois, il se touche la lèvre.
Oh, mon Dieu.
Tu sais, c'est comme... Mais attends, t'es en train de dire un
mais
truc.
Mais il est infecté aussi, c'est peut-être comme ça qu'il s'est infecté.
Peut-être, ouais. Ah, mais il est infecté bien plus tard. Ouais, quoi qu'on sait jamais. On
mais
sait
non,
jamais,
c'est ça l'idée, c'est que justement, ils sont infectés longtemps, ouais. puis tu t'en... Ça, c'est ouais. le docteur là, qui s'infecte.
Ouais.
Ouais, le docteur.
Mais lui, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été infecté. Il a été infecté
ben, peut-être là. C'est peut-être le détail que personne n'a vu, que toi, tu as vu.
Moi, je pense qu'il était infecté parce que je trouvais, sur le coup, je trouvais ça tellement niaiseux qu'ils détruisent tous les trucs de communication et tout. J'étais comme genre... C'est comme, tu sais, il faisait ça vite, là. Tu sais, moi, j'aurais pris le monde, tu sais, j'avais comme l'impression qu'il faisait exprès. Quoique la chose, elle ne voudrait pas. La chose,
non. Non, justement, elle voudrait atteindre le plus vite possible. Bah, d'où le chien qui arrive au début, qui cherche un autre, d'autres hôtes, finalement.
Mm-hmm. Ouais, OK, ouais. Non.
Et pour continuer à se propager, quoi.
Mm. Mais ça, c'est le fun, quand même, ce concept-là. Ils sont contaminés, puis on ne le sait pas. C'est vraiment... Le côté paranoïaque du film est tellement...
Ouais, moi, c'est ça que j'avais adoré, quoi. Le fait que, plus personne fait... Et ça va très, très vite, en plus. Enfin,
une coupe d'heure, puis tu peux plus avoir confiance en personne.
Hein. Ouais, mais...
Tu veux dire le transmettre, dire... là? Le...
Au niveau
non,
de,
c'est pas tellement ça, mais c'est aussi... Non, ouais, au niveau du récit, de la manière dont ils comprennent... Enfin, très vite, ils comprennent ce qui se passe. Enfin, très vite, lui, il se dit, OK, voilà, c'est un organisme qui fait ça.
Il y avait
quelque part, ça vient
surtout un peu tiré
vite.
Par les cheveux. Là. Tu regardes son petit graphiste ordinateur en 4 bits, 3 oui. couleurs. C'est comme, OK, toi...
En 4 bits, 3 ben, couleurs.
Dire, tu regardes dans Alien, quand il parle à Mother dans le premier Alien, tu fais comme, non, à cette époque-là, c'est n'importe quoi. Tu peux pas communiquer à un ordinateur des informations aussi complexes que le plus puissant des superordinateurs aujourd'hui, ouais, en 2012, vrai. Serait capable de te répondre à une question avec cette précision-là. Ouais, et cette... Ouais, ouais. Intuition.
Ouais,
là,
c'est sûr que là, c'est comme.
Mais là, c'est pas une science-fiction du futur, ça se passe en 82.
Non, c'est ça, mais il n'y a pas un maudit ordinateur en 82 qui aurait capable de donner cette réponse-là. Ouais.
Ah oui,
ça.
De statistiques et tout.
Ben, c'est ça, il est en train de lui expliquer en 2 pages d'ordinateur, de moniteur de 14 pouces, qu'est-ce qui va se passer exactement.
Mais
j'avoue que
non,
ça,
mais
ça
lui, il rentrait ses données perso.
Il faisait des calculs compliqués comme ça, là, c'était pas évident à l'époque, là, sur un ordinateur personnel. Oui, c'est peut-être pas un ordinateur personnel. Il y avait peut-être un petit mainframe, là,
non,
sur
Antarctique. Les ordinateurs de l'armée, je suis pas sûr qu'ils sont aussi puissants que ce que sa machine a réussi à faire en 2 minutes.
Mais tu t'es dit, rien qu'à partir
c'était pas le meilleur bout du film, ça, je suis d'accord.
Non.
C'est le bout genre, je vois des pixels.
En fait, c'est qu'ils ont mis ça en contexte. Hein, je veux dire, l'ordinateur qui joue aux échecs, là, le Chessmaster, là, au début. Que McReady, il verse un verre de whisky. T'sais. Donc, ils ont montré tout de suite la supériorité des ordinateurs. Hein. Ils ont mis ça en contexte, comme ça, après, on pouvait y croire.
Qui est d'ailleurs la seule femme du film, d'ordinateur. Puis ça, c'est intéressant, c'est un film de gars.
C'est film.
Ouais, c'est un film juste avec des gars.
Ouais, mais pourquoi c'est une femme?
Ben, la voix de l'ordinateur de le Chess Master, au début,
il
c'est une
femme.
Il
le dit tout le temps, il y a juste un personnage.
Qui d'ailleurs,
ça devient fatigant quand tu lis les trivia.
C'est d'ailleurs la femme de.
C'est
la voix de.
C'est ça, il
n'arrête
pas de le dire tout le temps, comme si c'était intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça soit un film vraiment de gars, avec tous des gars qui sont comme dans cette espèce de huis clos-là.
Ce qui n'était pas le cas du premier, du film de 1951. Il y avait un ou plusieurs personnages féminins, je ne sais plus.
C'était plus réaliste en 82 dans une mission en Antarctique, il n'y avait pas de filles.
Je trouvais ça réaliste.
À l'époque, ça devait être.
Ouais, pour les années 80, oui. Maintenant, ça serait différent. Non, c'est sûr ça. Que tu aurais des scientifiques féminines.
Même le boss serait...
Mais c'est, en fait, c'est peut-être le stéréotype masculin. Là. Il aurait pu avoir une femme qui aurait pu avoir le stéréotype, mais c'est tout le côté genre... souvent, il se passe quelque chose puis ils sont tous comme ils disent rien. Ils sont pas hystériques. Ouais. Il y a pas comme ça, comme tout flegmatique un peu. C'est tout est bizarre. Ça se passe beaucoup dans le silence, moi, je trouve, ce film-là.
Ouais, il y a peu de dialogue, c'est vrai.
D'ailleurs, l'économie de langage, où des fois, ils paniquent puis ils parlent un peu trop, mais... justement un film qui peut se passer de dialogue pour montrer. C'est un film très visuel,
ouais.
Dit tantôt,
tout en ambiance.
Ben, genre,
avec
film
des longs plans
ça,
subjectifs, enfin, ou pas, dans les couloirs de la station.
Le chien.
Un des talents de Carpenter.
Le chien qui est incroyable, là, c'est le chien qui bouge pas.
c'est le meilleur acteur du film.
Non, mais ils disent qu'il était un excellent acteur, il regardait jamais la caméra. Et tout.
Ouais, non, mais en plus, comme il reste parfaitement immobile, c'est quoi, c'est, je trouve, tout de suite, ça plante un truc. Tu sais, tu te dis, OK, il est pas normal, ce chien-là.
Ils l'ont drogué. Non,
c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai vraiment suivi ça dans les trivia. Là, c'est comme genre qu'il trouvait que c'était le meilleur acteur chien qu'il avait eu. Là, parce que d'habitude, un chien, ça regarde toujours par regarder la caméra, lui.
Lui jamais.
Il est tellement beau, en plus. Moi, j'aime pas les chiens, mais j'en veux un de même.
Ouais, magnifique.
Musique.
Ah, bah, la musique. Ah, la musique, ben. Étonnant que ça soit pas la musique de John Carpenter, lui qui faisait la musique de tous ses films, quasiment. Ouais, non.
Le plus surprenant, là, c'est que en regardant sur IMDb, là, ils disent que ce film-là a été nominé au Razzie Award, je pense, un truc pour qui donne les prix au pire film.
Donc, c'est vrai.
Ils ont eu une nomination pour pire musique.
C'est vrai.
Ouais.
Ça, je comprends. Mais ça, c'était à l'époque.
À l'époque.
Parce que Marconnet, ils ont osé faire ça à Ennio Morricone.
Ben, ça a l'air que oui.
Qui a fait la musique, oui, on le faisait.
Ben peut-être que parce que tout le monde s'attendait d'un truc beaucoup plus épique de la part de
Morricone. Non, mais
c'est,
c'est drôle parce que moi, quand j'écoutais ça, la musique, je me suis dit, tiens, c'est quand j'ai, comme, au début, je me dis, bon, c'est de la musique ordinaire de film d'horreur. Puis je me dis, elle est quand même bien faite. Puis là, quand j'ai vu que c'est Ennio Morricone, j'ai fait, ah, je l'aurais comme pas... Ouais,
mais avec
je l'aurais comme
Carpenter,
pas,
vraiment,
je l'aurais pas reconnu. Ouais. Mais là,
pas loin derrière, par-dessus l'épaule,
vraiment,
qui met toute son influence.
Ça lui ressemble tellement... D'ailleurs, quand j'ai vu Ennio Morricone au générique,
j'y croyais pas.
J'y croyais pas. C'est pas possible, ça ressemble à du Carpenter.
Ça, c'est comme l'impression. Ça, c'est des moments où est-ce qu'on aimerait ça être comme genre faire un petit... saut dans le temps, puis être à côté, puis de regarder qu'est-ce qui se passe.
C'est
genre,
pas dans le making of,
t'imagines, c'est-tu Carpenter, il pousse Morricone de côté.
Je pense que ça a probablement été imposé par le studio, vu que c'était son premier film de studio, Carpenter.
Ah, donc il voulait y mettre du monde dans les pattes, alors que
donc,
lui, t'as
je pense
un
que
peu
c'est
faire.
Ça. Ouais, ils ont dit, non, ta musique à toi, c'est un peu trop cheap. Là, tes petits synthés, tes machins, c'est trop cheap. T'sais. Nous, on veut du compositeur. D'ailleurs, dans le trivia, ça dit que ça devait être... Enfin, le premier choix, c'était Jerry Goldsmith.
Qui avait fait
Alien et tout ça, enfin, qui était méga connu à l'époque.
Ça aurait été too much, là, Alien.
Bah, déjà c'est sûr que ouais, l'ambiance, elle ressemble tellement... Je crois qu'il y a le bouchon sur la bouteille. Lui dis-je, alors qu'Olivier essaie de me verser un verre. Vas-y, t'arrives à viser encore. Oui, ouais, magnifique.
Mais
il est très, très bon, ce petit site de glace, vraiment.
Donc,
on va se faire commanditer, hein, les gens de...
On est prêt à chaque fois à vous parler de vous.
Clementlarivière.com. Alors, vous envoyez une caisse.
Le show de cinéma de science-fiction qui va se transformer en show de dégustation d'alcool. Mais donc moi, je la trouve parfaite, cette musique. Tu sais, au même titre qu'un thème de Jaws de John Williams, tu sais, cette espèce de thème ultra simple qui fonctionne parfaitement avec avec
le. Elle signe le film là. Je veux dire, il y a une signature là. Tu sais, je veux dire, puis on.
D'ailleurs, si vous avez vu ou pas si vous avez vu ou pas le remake / prequel de 2011.
Arc.
Voilà. Ce qu'on en pense. En fait, les seuls moments que moi j'apprécie dans ce film, c'est quand il reprend la musique de l'original. C'est ça.
Pas
la musique de
Morricone. C'est pour les auditeurs qui ne savent pas, on peut juste mentionner que c'est qu'il y a du monde qui ont décidé de faire la section qui se passait dans le camp norvégien.
Exact. Ça raconte ce qui s'est passé avant.
Mais
en fait, quand
trop.
Tu vois le film, c'est ça, c'est exactement. Enfin, t'as l'impression que c'est du copier-coller. Ils ont repris scène pour scène, c'est les mêmes plans dans les couloirs.
Mais imagine quelqu'un qui n'a pas vu le film, est-ce qu'il apprécierait ce film-là aussi?
Peut-être.
Ben, c'est trop moderne dans le sens où ça se fond dans un paquet de films qui ressemblent à ça, qui n'ont aucune originalité ou qui ont rien de... C'est ça, pourquoi The Thing, c'est si beau. L'histoire n'est pas si originale que ça, mais c'est réalisé de 20 mètres pour le style, pour le genre.
Avec des acteurs extrêmement bien dirigés, faut pas l'oublier, ils étaient vraiment tous bons.
On en
les
parle depuis tantôt, l'ambiance est sur la coche au niveau visuel, au niveau du rythme, au niveau de la musique, tout est sa coche. On peut vraiment pas en dire autant de la version 2011. C'est un film qui est ordinaire au possible, qui respecte les codes qui sont à la mode, mais qui se démarque d'aucune façon.
Mais c'est ça qui fait des grands réalisateurs et tout, c'est cette espèce de capacité qu'ils ont de tout amener comme une sorte de... Juste, tu sais,
Pimpley,
comme les coureurs, les gens qui font le 100 mètres, puis qui sont comme capables d'aller genre comme un demi-dix. Mm-hmm. Parce que plus loin, tu sais.
C'est du talent brut.
T'as de la misère à dire pourquoi exactement. Tu vas regarder The Thing et tout, tu peux le décortiquer et dire ça, c'était bien et tout. Puis, bon, c'est aussi des gens qui vont comme refuser de faire des compromis. Ils avaient fait des stop-motion, puis Carpenter trouvait ça pas beau. Ils ont pas mis là. Le gars qui a fait les effets spéciaux, il a pas dormi. Il disait que... Ben,
il a fait un burn-out. Ouais.
Rob Bottin, 22 ans, genre de Philippe Toupin.
C'est ça.
J'allais payer.
Salut Philippe.
Ouais. D'ailleurs, c'est un autre très bon, c'est Stan Winston qui avait repris la suite quand Bottin il a dû s'absenter pour Burnout.
Oui, c'est ça.
C'est Stan Winston qui est venu puis qui a pris la suite et qui a, je crois, qui a même refusé d'être crédité au générique.
Oh, wow.
Mais il est dans les remerciements.
Il a fait un chien, mais je ne sais pas si c'était quand même à ce moment-là, c'est quand il a pris la suite. Parce que moi, j'avais compris que c'était en post-production qu'il avait fait son Burnout.
Oh, peut-être. En tout cas, je sais que Winston est intervenu.
Il a fait quelque chose.
Pour finir une partie des effets spéciaux et tout ça.
Mais donc, c'était un petit coup de main de 2 ans qui s'est donné.
Il avait vraiment trop, puis il avait du talent.
C'est incroyable. Puis c'est chicané, pareil, avec le directeur photo. Parce qu'ils n'avaient pas la même façon de concevoir, filmer les effets spéciaux.
Faut voir le making of pour ça, parce qu'il y a en tout cas sur moi la version que j'ai, c'est le Blu-ray, je sais pas si même chambre c'est sur celle-là. Il y a un making of quand même assez long puis qui passe beaucoup de temps. Il y a une section complète justement avec lui, avec Rob Bottin, sur toute la création des effets. Puis on sent un peu justement son il est passionné, il est enivré, mais il est fatigué mort. On sent sa bulle, on le voit pendant le tournage en train de nous raconter ça. Il y a quoi de...
Je sais pas si c'est le même. Ça peut être le même ce que j'ai sur mon édition DVD. Moi, j'ai une édition DVD assez vieille qui est même pas en... Enfin, qui est en...
Pas un pan and scan.
Non, c'est pas du pan and scan, heureusement. Mais c'est du letterbox. C'est du 4x3 letterbox. C'est pas du 16:9. Fait que ça va. Quoi, le bruit du... Non, ça va. Ça dérange pas.
Les
formations professionnelles.
Pour les geeks comme moi, le film a été tourné en cinémascope. D'ailleurs, il y a des effets de flair absolument monumentaux.
Ouais, magnifique.
Cinémascope avec la distorsion des lentilles.
C'est beau. Entre la version que j'avais vue en pan and scan en VHS au tout début, puis comme je l'ai redécouvert par la suite, je crois que c'était en Laserdisc, avant qu'il sorte en DVD. Là, j'ai redécouvert le film quoi, en scope, magnifique.
Quelque chose.
Et puis, à l'époque, ils savaient faire du scope et servir de toutes les crampes et chercher des choses
les
dans chaque
de
coin.
Lumière, toujours,
magnifique.
Puis, mais juste une note très, 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 très geek. Le film a eu des prints 70 mm avec un ratio 2.20. Et le Blu-ray, si je ne m'abuse, n'est pas en 2.35 ni en 2.40 parce qu'il est marqué les deux. Sur le disque, c'est marqué 2.35. Sur la pochette, c'est marqué 2.40, mais il est bel et bien en 2.20. Dans ta télé. Mets ça dans ta pipe, buddy.
Bon, alors moi, j'ai un autre truc de geek. Vas-y. Alors, dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Mac, puis un autre Windows.
Ouais! Oh non! Oui!
Oh non! Et c'est un hasard! Ça se passe en 82, donc c'est avant le Mac!
2 ans avant!
Ça, c'est vraiment trop drôle.
Et même avant Windows.
Ouais,
c'est bon, ça. J'ai vu le film 40 fois, j'ai jamais remarqué ça.
Mais moi non plus!
Et c'est ça que ça sert, les trivia sur IMDb!
C'est vraiment drôle, quoi! C'était avant Mac et Windows, quoi!
C'était
hyper
avant
drôle.
Mac et Windows,
même
oui.
Windows, c'est
tellement drôle, ça.
Hey, moi, je veux absolument qu'on mentionne que c'était l'année de E.T., l'extraterrestre, E.T., et que ce film-là a été complètement boudé. On l'a un petit peu mentionné, mais au box-office, ça a été un four total.
Oui, il s'est fait assassiner par la critique.
Et tout le monde était à une époque où est-ce qu'il y a E.T. l'extraterrestre qui sort, puis tout le monde est joyeux d'aller voir un gentil extraterrestre.
Il est sorti quoi, une semaine avant, en plus,
quelque chose du genre, une couple de semaines avant, ça faisait pas longtemps. Mais tu sais, E.T., là, ça a été un méga succès, là, quand même, qu'il serait sorti 3 mois avant. Là, ça a comme,
il est resté premier au box-office tellement longtemps.
Les gens sont. C'était comme Titanic, là, ça a duré super longtemps. Puis c'est drôle parce que moi, E.T., c'est le genre de film que. Mais je sais pas, j'avais quel âge à cette époque-là. En 82, c'est sorti.
Ouais.
Mais j'avais 9 ans. Puis c'était vraiment, j'étais la génération E.T., là.
Ouais.
Ça me gavait un petit peu. J'ai
un traumatisme. J'ai vu ce film-là. C'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma. J'avais 2 ans. C'est pas l'âge ou année. Voir un extraterrestre bizarre au cinéma, un enfant, ça m'a traumatisé. J'ai jamais aimé ce film.
Mais moi, j'ai jamais trouvé beau E.T.
Non, il est là.
J'ai trouvé tellement drôle. Ouais, j'ai trouvé tellement drôle la joke de l'étron, là. C'est comme Matt TV qui a fait un truc. Je sais pas si tu l'as vu.
J'ai pas vu ça.
Oh, c'est extraordinaire. Mais bref, on va sûrement peut-être parler de E.T.
Donc,
un jour.
Le même jour que Blade Runner.
Oui, il sort maintenant Blade Runner.
C'est deux canons.
Mais
Blade
Runner,
ça a marché sur
non, pas du tout. Blade Runner, ça a été un échec total et tout. Puis c'est Blade Runner, puis.
Et The Thing sur des films cultes.
Des films cultes. On peut dire qu'E.T. aussi est un film. E.T. aussi est un film culte. On peut pas nier ça non plus. Ça a été un film.
Pas pour les mêmes gens, peut-être.
Pas pour les mêmes gens.
Pas pour les mêmes gens.
Beaucoup plus mainstream.
Oui, c'est sûr.
Bon,
non, non, c'est sûr, c'est pas pareil. Là, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une grande année quand même de la science-fiction.
Ouais.
Quand on y passe. Là.
Ah,
ouais. Les années 80, en général, c'était vachement
bien. Mais reste que The Thing comparé à E.T., c'est comme l'opposé total. Mais
ouais,
c'est
drôle. C'est vraiment aux antipodes.
Aux antipodes. Tu peux pas avoir deux films plus différents.
Il y en a un qui est un film pour enfants, puis l'autre qui les gens surprennent que ce film-là a eu un rating de R aux États-Unis qui n'est pas le plus intense. Là, c'est que.
T'as c'est comme R, adulte.
T'as X ou je sais pas quoi. Et
X, c'est pornographique carrément.
Non, OK. Il y en a un autre entre les deux.
Mais qui fait NC-17,
je crois. NC-17, qu'il faut absolument avoir 17 ans. Là, c'est 17 ans suggéré, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même ouvert aux 13 ans et plus, je pense. C'est ce genre de rating qui peut absolument tuer un film parce que le public cible de ce type de film-là, c'est beaucoup, beaucoup les adolescents.
Ouais. OK, donc il y a eu ce rating-là.
Il y a eu le rating de R et le monde se demande à la quantité de gore et d'effets comment ils ont réussi à avoir ce rating-là parce qu'il y a des films moins pires qui ont des ratings plus élevés.
Non, mais c'est parce que dans ces autres films-là, il y a comme, je sais pas moi, deux filles qui s'embrassent. Ouais,
ou il y en a un qui dit fuck.
Tu peux tuer 28 personnes dans un
il
film.
Il dit fuck dans ce film-là, par exemple.
Ah ben ouais. Le fameux de la fin. Yeah, fuck you too. Comment lui balancer un
peu. Ah ben tiens, faisons une note sur Kurt Russell. Parce que pour moi, Kurt Russell, c'est quelque chose de particulier. C'est un piètre acteur, mais en même temps, c'est un acteur grandiose. C'est un phénomène de son époque.
Vas-y.
Il n'est pas mauvais, c'est juste que ce n'est pas un grand acteur.
Non.
Mais il y a un calibre.
Il a un capital sympathie, comme diraient nos amis français.
Oui, puis en même temps, c'est une brute. Là. C'est un Bruce Willis, Chuck Norris. Il peut se battre, il peut se péter la gueule de tout le monde. Il est fort, il est costaud. Puis en même temps, il est comme Jojo Nobody avec un côte de cuir là, qui a l'air cool. Mais il rajoute tellement de charisme au film. Dans tous les films dans lesquels je l'ai vu, ou presque. Puis il a joué dans quand même beaucoup de films de Carpenter aussi.
34, hein, en tout cas.
Ah, ouais,
il y a Escape from New York, Big Trouble in Little China, ça.
Il n'est pas dans Escape from Pelham.
Escape from L.A. aussi.
Non, mais il essaie de s'évader. Il y a un remake de ça dans une station de police qui est entourée par des
zombies. Assault on Precinct 13.
C'est pas lui qui joue dans l'original?
Non, il n'est pas là-dedans.
Ah, c'est pas lui?
Non, il n'est pas là-dedans. Je pense que son premier, c'est Escape from New York.
Puis il y a Big Trouble in Little China, c'est du Carpenter, ça?
Ouais.
Il est là-dedans.
C'est fameux. Ouais. J'adore.
C'est les aventures de Jack Burton.
Ouais. Non, mais tout le cast est bon en plus. Pas des. Aucune tête d'affiche. Lui, c'était le plus connu à l'époque.
Finalement. Il commence à être pas mal hot, je pense, à cette époque-là. Ouais.
Si c'est un film de studio, c'est sûr qu'ils n'ont pas dû demander de caster un acteur qui était un no-one.
En même temps, avec le 8 à 10 personnages à caster puis le budget qu'il y avait, ils ne pouvaient pas se payer.
Mais il y avait quand même 10 millions. Ouais.
Vedette,
c'était quoi, 10 millions le budget?
15 millions pour l'époque, c'est quoi? C'est le double aujourd'hui?
Mais j'avais lu 10 millions quelque part, mais comme tu as toujours raison pour ces choses-là, ça doit être 15 millions.
C'est MDB qui a raison.
Puis là, je regarde les films que
Kurt Russell.
Il avait fait Escape from New York avant. Elvis.
Elvis?
Oui, Elvis de Carpenter. Le Carpenter a fait Elvis.
Oh, ouais.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Hein, comment ça, je sais pas ça?
Ouais.
Hein?
Il a fait un Elvis.
C'est pas un film pour la TV, genre?
Non. Mais.
1979, Elvis.
Ouais. C'était avant ça, en plus.
C'est lui qui fait
Elvis. Voilà, c'était le troisième film avec Kurt Russell.
Et bien.
Kurt Russell est bon, d'ailleurs, Elvis.
C'est pas facile à trouver, ça. J'ai jamais vu ça.
Je pense que c'est un de ses moins connus, ouais. Mais ça vaut la peine.
Sûrement pas un de ses pires, parce qu'on s'entend qu'il y a des beaux navets.
Ouais.
La carrière avec Carpenter, malgré qu'on l'aime beaucoup.
C'est les derniers, surtout. Enfin, il y a comme... Oh, mais en tout cas, ce qui est triste, c'est que c'était son premier film de studio. Et je pense que c'est probablement... Enfin, je ne me rappelle pas ce qu'il a fait comme film avec des studios après. Aussi,
In the Mouth of Madness, c'est studio.
C'est un film de studio aussi,
ouais.
Ça.
Les Escape from New York, Escape from LA, c'est studio aussi.
Pas New York.
Non?
Le
deuxième.
Ouais. Le deuxième, oui. Et ça a été un flop monumental, je pense.
Ghost of Mars, ça, c'est lui, ça.
Ouais.
C'est un de ses plus grands flops monumentaux, mais c'est un film à gros budget quand même.
Merde aussi.
Ah, oh, mon Dieu.
Mais c'est marrant aussi l'histoire que je ne savais pas ça, que ça s'inscrit avec Prince of Darkness et In the Mouth of Madness. Ça s'inscrit dans sa trilogie de l'Apocalypse.
Ouais, puis ça, je trouve ça bien aussi parce que c'est subtil comme idée de l'Apocalypse. Parce que
Il définit ça comme sa trilogie de l'Apocalypse.
Parce que la chose, c'est que c'est l'Apocalypse qui arrive sur Terre.
Ah, ben oui.
Dès qu'elle s'échappe, c'est fini. Dès qu'elle arrive à.
Ouais, puis il essaye de retenir.
Ben, chacun des trois films traite du fait que c'est la fin de l'humanité.
C'est potentiellement la fin de l'humanité.
C'est potentiellement la fin de l'humanité.
Mais tu parles des trois films, genre de chacun des trois films de cette trilogie-là.
Voilà, je ne me rappelle pas très bien d'Anomath of Madness, il faut que je le revoie. Ah, mais
c'est tellement génial.
Prince of Darkness, j'avais adoré. Bien qu'il y ait des trucs.
Il n'y a pas de De Niro là-dedans, si je me
trompe. Dans Prince of Darkness?
Non, je me trompe pas.
Ah non.
J'aime bien confondre les vieux films ensemble.
Non, il n'y a pas de Niro.
Mais In the Mouth of Madness, ça, c'est grandiose aussi. Autant que The Thing, je pense que c'est peut-être les deux meilleurs films de Carpenter. Ben, il y a Halloween.
Ouais, ça, pas pareil. Tu ne peux pas passer à côté.
Puis, moi, j'aimerais ça aussi mentionner que la nouvelle a été écrite par un des piliers de la science-fiction classique. Qui était.
Monsieur Campbell, c'est ça?
Oui.
C'est quoi, John Campbell? John W. Campbell.
Moi, je lisais un petit peu sur lui et tout. Ça me plaît bien, en fait, parce que souvent dans la science-fiction, le lien entre la littérature de science-fiction puis le film de science-fiction est souvent un petit peu brisé, ou est-ce que des fois, les films de science-fiction se concentrent à être des films de.
Excuse-moi, j'entends des interférences.
J'ai mon téléphone qu'il faut que je fasse attention que je mets. Que souvent, les films, c'est comme des films qui vont se servir de la science-fiction comme un prétexte pour faire un film d'action. Mm. Ce qui n'est pas le cas, je pense, dans ce film-là du tout. Non. C'est un film d'horreur et tout, mais c'est un film qui joue bien quand même sur l'arrivée de cette chose de l'espace, qui a une action vraiment typique de science-fiction, là, qui transforme le corps, etc. etc. Puis ça, c'est ce genre de thème que quand tu lis les science-fiction des années 50... 40,
il y avait beaucoup à cette époque-là.
Ouais.
C'est un beau mélange des genres. C'est ce qui fait la réussite d'un projet. Il y a aussi de la comédie, il y a de l'humour dans ce film-là. Pas de la comédie, mais il y a des petites jokes à gauche, à droite. Ouais. Juste
où
assez.
Ça?
Ah, des petites affaires aussi.
Je n'ai pas noté.
Ou c'est des fois, tu regardes un peu les choses qui vieillissent ou les clichés de l'époque. Puis moi, des choses qui me font bidonner.
Ben, l'ordinateur est très comique, c'est ça.
Oui, mais quand il verse son verre de whisky dans l'ordinateur. Là,
ah oui, okay, je comprends ce que tu veux dire.
Douchebag des années 80. Là, du redneck américain, c'est merveilleux. Ça. La façon dont Blair il tire du gun, un peu comme un cowboy, mais il est comme 100 ans en retard. Là. Ça ne marche pas pantoute. Moi, je trouve ça, ça me pisse dessus.
Oui, c'est bon. Mais Carpenter a toujours une espèce de petit humour comme ça. Un peu, pas décalé, mais...
Ou quand le gars, il se fait tirer dans la jambe au début, quand ils viennent de croiser les Norvégiens. Ouais. Là, puis qu'il y a l'autre à côté, il y a le black en patin roulette qui s'amuse, lui, qui fait de la cuisine, ou avec la toune dans le tapis. Puis l'autre, il dit « Hey, j'essaie de dormir.
Puis
je
me suis
fait tirer dessus aujourd'hui. Peux-tu baisser le son? » Puis il passe à côté de la radio, puis il fait semblant, mais il fait un move. Là, c'est...
Ouais.
Ouais, ouais.
Ah, c'est drôle, ça. Ça, il faut que je plaque ça dans un de mes films.
Moi, ça m'étonnerait pas que c'est au montage qu'ils ont juste décidé de garder le son. Tu comprends? Il fait le move, puis c'est comme s'il baissait. Puis après ça, ils sont dit
pas. Non, il ne touche pas. Il ne touche pas. Il fait comme s'il voulait. Hop là!
C'est peut-être une suggestion d'acteur, ça.
Ou un beau qui l'a raté, puis au montage, ils ont dit, tiens, on va prendre celle-là. Tu vois, genre, il passe en patin roulette, puis il ment. On est en train de raconter qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le film.
Mais l'acteur, il joue le jeu. Fait que si c'était pas voulu, il a comme continué à jouer dans le fait que. En tout cas, reste un beau moment de film, ça. Tellement simple, mais tellement efficace.
Non, puis aussi, je crois, comme. Juste pour revenir aussi à l'angoisse, au monstre et tout ça. Ce qui fait la force du film, c'est que tu le vois très peu, finalement, le monstre. Tu sais pas.
On a aimé Elie.
Au début, tu le vois pas beaucoup, mais à un moment donné, tu en vois. Tu vois quand même. Moi, je trouve que ça.
Il y a les deux, trois fameuses scènes.
J'aimais bien la.
Mais il s'étend pas trop, tu le vois. Ça dure pas très longtemps, en général.
C'était une proposition de Boutin, celui-là, qui a fait les effets spéciaux.
De Bottin.
Bottin. Bottin. Bottin. Je sais pas comment le dire. C'est Bottin.
C'est pas la même chose.
Je me trompe. C'est Bottin.
Oui, Rob Bottin.
Rob Bottin. Il dit. Parce que là, il se demandait c'était quoi la bébête, ce qu'elle faisait, blablabla. Puis il dit, en fait, cette bébête-là, elle a été comme partout dans l'univers. Elle a vu plein. Ça n'a pas d'importance la forme que ça prend, parce que ça peut être n'importe quel type de forme extraterrestre.
C'est ça qui est intéressant.
Elle se souvient de. Donc, il s'est permis de faire des choses comme qui sont vraiment bizarres, tu sais, comme des espèces de constructions de bêtes et tout, comme les pattes qui sortent à un moment donné. Avec la... Écoute, ça, c'est une des meilleures. Dans toute l'histoire du cinéma, là, l'araignée avec la face humaine, là, c'est une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma.
Personne ne peut rester indifférent face à ça.
Ah non, c'est vraiment le ça.
La réplique de
Quand j'ai vu sortir ça.
Ah, c'est pas Kurt Russell, c'est l'autre, c'est le pothead, là, comment s'appelle Palmer dans le film.
Ouais, un de ceux qui vont mourir.
David Clannon, un truc comme ça. Ouais, un de ceux qui meurt après. Ouais, qui sort.
Mais là, c'est pas un gros punch, il meurt tout. Hein.
Ah, quoi qu'il y a un. De toute façon, c'est un peu, on prévient les gens qui vont se faire dire tout ce qui.
Spoiler.
Puis la fin, justement, parlons-en de la fin, on a, comme on l'a évoqué tantôt, toi, tu l'adores, cette fin-là.
Ben, comme tu disais tantôt, Carpenter a tendance à faire des fins abruptes qui ressemblent pas au classique.
C'est, bon, c'est exactement le mot que je cherchais.
Des fins qu'on connaît, qui a une grosse chute, où il y a vraiment comme de quoi qui se passe, où il y a un revirement de situation pas possible qui est très satisfaisant souvent. Il coupe ses fins courtes. C'est pas toujours réussi, mais dans ce contexte-là, je trouve ça merveilleux parce qu'il t'ouvre la porte grand comme le monde à toutes les possibilités d'interprétation, mais en même temps, il y en a juste deux ou trois. Puis c'est soit. Puis ça finit pas bien. Je pense que c'est peut-être ça que j'aime. C'est que ça finit pas bien du tout. Ça finit par quelque chose de.
Oui, ça finit. Mais ça finit mal. Ils vont mourir, les deux.
C'est
aucun... Il n'y a pas
d'indifférence. De la mort. Mais ça finit sympathique. Ils sont là, les deux, à se geler le cul en buvant du whisky. C'est tellement cool. Il y a de quoi de.
Il y a un truc. Il y a un truc. Horriblement nihiliste, puis en même temps, ouais, il y a ce truc.
Ouais, ouais,
c'est mieux que Bruce Willis qui se fait exploser dans Armageddon, là.
Mais
bon, oui, bon, ben, ça, c'est Bay, pour ça, toucher la fibre patriotique américaine.
On parle pas de Michael Bay, sinon je vous crisse dehors.
Mais on en parlera, on va y arriver à en parler une fois.
Il va bien falloir.
Faut qu'on se fasse un Michael Bay.
Il va bien falloir.
Mais okay, il a un bon film.
Ouais, hein. Oui, j'espère qu'on parle du même.
Ah ouais, du coup, j'en vois peut-être deux, mais...
Il y a deux.
Non, mais science-fiction, il y en a un.
Je pense qu'on parle du même.
The Island?
Oui.
Ouais. C'est bien.
Ouais. On va manquer une possibilité d'une bonne joute.
Bizarrement, ouais, son film qui a le moins marché, ou un truc qui a le moins marché.
Mais c'est quand même... Et moi, je le déteste, Michael, mais c'est quand même un très bon film.
Ben, ce qui... Ouais.
Fait que c'est comme... En tout cas.
Ouais.
Mais bref, on est d'accord que c'est une fin qui est très intéressante pour, justement, dans cette fin-là.
Ouais, moi, je trouve ça très bon.
Ça aussi, le film,
oui,
ça soit...
Non, moi, j'aime cette fin-là. J'ai aucun problème avec cette fin-là. J'aime aussi qu'on voit une bébite over the top, mais que ça ne dure pas trop longtemps. Parce qu'il finit avec le... Il lui lance le...
Ah ouais, ça va très vite. C'est le moment qui va très, très vite. Tout à coup, tu vois la grosse physique, grosse bête, et puis
il y avait probablement des, il y avait probablement il y avait probablement de la dynamite partout. C'est pour ça que ça n'arrête pas d'exploser, c'est vrai. Non, c'est, ça marche. Je cherche des objections.
Des explosions trop grosses, je veux dire, Carpenter, il en a fait plus qu'à son tour. Mais à cette époque-là aussi, c'était... Mais, je veux dire, regardez Skyfall, le dernier James Bond, quand la maison explose à la fin, là, c'est quatre fois pire que ça. Fait qu'on s'entend
mais
que chaque sa quantité de dynamite de cacher des murs.
Ça allait. Ça allait. Ouais.
Ouais, t'as des doutes.
Mais c'est beau du feu dans la noirceur, ouais, d'un hiver.
Ah, mais le fait que ça se passe en Antarctique, ça, j'aime tellement ça. Puis c'est comme ça rappelle. Ce qui est de le fun aussi, c'est qu'évidemment, t'as toujours cette espèce de film qui se passe dans l'espace, puis que c'est comme complètement. Genre. T'es comme. C'est claustrophobant. Puis là, on est sur la Terre, là. T'sais, on n'a pas besoin d'un vaisseau spatial ou sur la Lune. Ça se passe vraiment à l'Antarctique.
Ça se passe au début.
Puis il y a tout. Ouais, mais il y a tout. Qui était relativement pas nécessaire d'une certaine façon.
Non, mais c'est pas la traite. Regardez les cinq premières minutes du film, jusqu'à 4 minutes 34 à peu près. Les effets spéciaux aujourd'hui qu'ils pourraient faire à l'ordinateur avec autant de budget qu'ils veulent ne battront jamais. Ils vont seulement pouvoir égaler la qualité des cinq premières minutes de ce film-là qui est parfait et qui n'a pas vieilli d'une seconde.
Mais là, tu parles du vaisseau spatial.
Le vaisseau spatial,
puis les scènes d'avion, l'hélicoptère, le chien qui court.
Ça n'a pas vieilli d'une seconde. Bon. Non. Dès qu'on finit cette séquence-là, on voit les costumes, les coupes de cheveux, tout ça.
Ce qui est formidable aussi, c'est que ce que j'aime bien, c'est que dans les années 80, les Norvégiens ne parlent absolument pas anglais aussi.
Ah, ça, c'est... Oui, ça, on aime ça. C'était un peu... Inception, tout le monde parle anglais. OK, oui, on est en 2012, mais là, comment...
Non, mais c'est connu, en plus, que les pays scandinaves, ils parlent tous parfaitement anglais, tu sais, parce que c'est des tout petits pays qui sont tous bilingues, tu sais. Donc, ça, c'est complètement... Disons que c'est complètement pas réaliste, mais...
L'anecdote veut que ce soit le producteur qui joue le rôle du Norvégien qui court puis qui le prononce dans un Norvégien très approximatif. Donc, si t'es Norvégien, tu rigoles. Malheureusement pour les Norvégiens.
Mais bon, sinon, t'avais pas de film?
Ouais, non, mais c'est une super bon début de film. Moi, j'adore ça. Tout le mystère, comment c'est révélé et tout. C'est bien écrit. Ce scénariste-là, il n'y a rien fait d'autre en plus, je pense.
Regardé.
C'est le fils de Burt Lancaster. Donc,
qui? Le fils de Burt Lancaster.
Burt Bacharach?
Burt Lancaster.
Burt Bacharach.
Excuse-moi, c'est Noël.
Bill Lancaster. C'est Bill Lancaster.
C'est pas Snow.
Il a ramené beaucoup le scénario à la nouvelle originale.
Qui est toujours une bonne chose.
Puis ouais, il n'a pas fait grand-chose d'autre après.
Ouais, dans le film, ça, dans le premier film, il n'y avait pas la notion de, d'assimilation.
C'est comme des films.
Rien de connu.
Il y en avait... Non, c'est tous des trucs qui ont été faits avant. The Thing, ça serait comme son dernier.
Ah, il est-tu mort?
Il a peut-être juste changé de job.
C'est possible, ça.
Si j'ai fait mon chef-d'œuvre, j'arrête.
Non, il est mort en 97, donc il n'est pas mort en 82.
Non, mais c'est 15 ans après. Il a peut-être déjà 65, 70 ans rendu là, puis il est mort en 95. Il a peut-être fini sa carrière.
Il est né en 47.
Non, pas si vieux que ça.
Non.
Non, ça m'a étonné parce que j'ai trouvé ça drôlement bien écrit, moi.
Il y est dans le making-of, je crois. Hein. Si on a le même, parce que moi,
peut-être pas, mais
je sais pas si on a le même, si c'est le même.
À voir, on va aller découvrir toutes les versions différentes du disque.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est un film qui vaut la peine d'avoir dans sa collection.
Ah, c'est clair.
Pour les puristes comme nous qui aiment avoir l'objet physique.
Je pense que c'est certain que les gens qui aiment la science-fiction, il faut absolument qu'ils écoutent ce film-là.
Oui,
ça, c'est
oui,
des,
oui. Incontournable.
Ouais. Si j'adore faire juste 5, je ne sais pas s'il serait sur les 5 absolument à voir, mais si tu es un amateur de science-fiction, il faut que tu vois de Thing.
Et de films d'horreur aussi, parce que dans le...
Est-ce que c'est plus un film d'horreur ou un film de science-fiction?
Je ne sais pas si c'est plus l'un ou l'autre. Ben,
c'est un bon mélange.
C'est un
bel équilibre.
Mais dans le
de
film
tous les films de science-fiction,
pour moi, c'est aussi un classique.
Le mélange science-fiction-horreur, qu'est-ce qu'on en a? On a Alien, évidemment. On a The Thing. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il y en a beaucoup depuis. Hein.
Qu'est-ce qui mélange les deux?
Dès qu'il y a un monstre, ils vont mélanger de l'horreur.
Oui, mais monstre, c'est fantastique. Monstre, c'est fantastique. C'est pas science-fiction, là. Il faut que tu aies un extraterrestre à la limite, là. Genre Alien.
Pourtant, on est assez large. Hein. On considère War Games comme de la science-fiction, quand même.
Aucun film de Roland Emmerich. Aucun film de Roland Emmerich a de l'horreur dedans. Il sait pas c'est quoi.
Non.
Hey, c'est drôle là. J'arrive pas à trouver un autre film science-fiction qui mélange horreur à part Alien puis The Thing là. C'est comme un sentiment que je vais rentrer chez nous puis je vais en avoir 10 qui vont me popper en tête là. Mais.
Oh, je suis sûr qu'on en trouve facile.
Invasion of the Body Snatcher.
Le truc, I Am Legion.
Oh.
C'est considéré comme un livre de science-fiction.
Bah, c'est du post-apocalypse, mais c'est pas un film d'horreur.
Terminator.
C'est pas un film d'horreur.
Bah, c'est un peu. Quand même, il y a une
Terminator, c'est pas un film d'horreur.
C'est pas d'horreur. Le 4 parce qu'il est mauvais.
Salvation. Non, mais il y a un petit côté horreur un petit peu plus assumé, mais c'est pas tout à fait.
Predator, est-ce qu'on peut dire que c'est un film d'horreur? C'est action.
Ouais, plus action, c'est pas tellement
fini. C'est un autre mélange aussi, mais il y a de la sci-fi, puis il y a quand même des séquences montées comme des séquences d'horreur. Mais c'est peut-être un moins gros pourcentage dans le mix. C'est toujours ça. Les meilleurs films, je pense, ceux qui restent longtemps, qui deviennent des classiques, c'est toujours un mélange de différents genres. Ça s'appelle jusqu'à comédie, drame et blabla, machin. Puis c'est le bon dosage de tout ça qui crée cet équilibre-là, qui fait que ces films-là perdurent dans le temps.
Mais c'est clair qu'Alien, c'est un coup de génie, parce que c'est vraiment le
mais c'est ça, mais qu'est-ce qui fait un film d'horreur aussi? C'est un film qui fait peur ou c'est un film gore?
Le film d'horreur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le hors-cadre.
Parce que oui, The Thing, c'est gore. OK, The Thing, c'est dégueu. T'sais.
Non, mais c'est ce que je dis, c'est toute anticipation. Tu sais que tu as tout le côté paranoïaque. Est-ce que vraiment... Un des bons points de Thing, c'est encore là la paranoïa. C'est rare que c'est traité au cinéma.
Ça, je pense que l'ambiance va créer un meilleur horreur que le gore, mais je pense que ça prend un peu des deux quand même.
Ouais.
C'est juste qu'aujourd'hui, le problème, c'est dans les films d'horreur, ils oublient l'ambiance.
Ils ont mis du gore au niveau du gore et du gros score musical
pour monter l'attention. Mais tu sais, quand tu es habitué à ces chaînes-là, tu les vois venir d'avance.
Tu regardes un film comme Martyr, là, c'est tout parce qu'elle va se faire écorcher.
J'aimais ça, Martyr.
Non, mais je veux dire, t'as pas un film que tu as une tension. Non,
j'étais à l'école avec le réalisateur.
Moi, j'ai détesté ça. Non, moi, c'est encore sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas un film qui t'amenait dans cette espèce d'état où tu étais toujours sur le bord de ta chaise. C'était dégueulasse.
Non.
Mais c'était violent, c'était beaucoup de violence, c'était dégueulasse, mais il n'y avait pas de... Parce qu'à un moment donné, tu le voyais venir. Là. Même à la fin, c'est comme une surprise, mais c'est pas une...
C'est pas un build-up de tension. C'est l'aura du film qui est tellement dégueu puis poussé à bout dans quelque chose qu'on se permet pas souvent au cinéma parce que c'est limite. Là,
C'est pas mon ami.
Rémi Couture se met en tôle pour bien moins que ça.
C'est vrai.
C'est-tu fini son procès?
Non, pas c'est en cours présentement. Ouais, il commence sa deuxième semaine.
Mais là, le podcast. OK, il y en a encore pour une semaine.
Rémi Couture, donc...
Juste une mention à nos auditeurs. Allez faire un tour pour découvrir c'est qui Rémi Couture puis donnez-y de l'argent pour leur encourager. Parce que c'est ridicule.
Un don sur son site supportremi.com.
C'est absolument ridicule,
ouais.
Rémi Couture, qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un créateur d'effets spéciaux.
Maquillage
d'horreur. Il y a des trucs assez...
Ce gars-là a énormément de talent. C'est un amour. C'est un gars qui ne ferait pas de mal à une mouche. Je veux dire,
Marie-Louise
quand même est
plus
dangereuse que Rémi Couture.
Sûrement. Ça, c'est plus aucun doute.
Puis là, ils font un procès pour corruption des mœurs pour juste se sauver la face. Mais
alors qu'il n'a jamais fait de mal à personne.
Des gens comme moi, tu comprends pas. Moi, je vois ces films, puis après ça, j'ai des envies meurtrières. C'est ça l'argument de la couronne.
Mais c'est tout des films
pour tous les gens. Tous les gens qui voient des films d'horreur sont bien sûr passibles de devenir des tueurs.
Oui, puis mettons, en tout cas, Patrick Sénécal, là, le prochain, puis moi après, puis Gaff.
Non, c'est ridicule. Cette cause-là est complètement
ridicule.
Non,
ça n'a aucun sens. C'est du gaspillage des fonds publics et
tout
du temps
fait.
Et de l'énergie. Et,
et puis en passant, je veux quand même mentionner une chose. J'ai vu les photos de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est dégueulasse, là. J'ai comme pas envie d'accrocher ça dans mon salon. C'est comme vraiment way too much, puis t'as pas envie de regarder ça 10 minutes.
Ouais, mais regarde, c'est son univers.
Ben, okay. C'est pas juste ça. C'est le genre de truc que dans des films et tout, lui, c'était son portfolio. Okay? Puis ouais. Quand tu regardes des films, c'est des trucs qui apparaissent 2-3 secondes, puis on fait genre justement le hi, puis ça fait partie d'une culture cinématographique. Là.
Moi, je pense qu'il y a certains films où là, tu devrais un petit peu plus aller voir du côté des scénaristes ou du réalisateur, parce que c'est vraiment salement tordu, tu sais.
Ouais. Ben, c'est...
Oh, oui. Vous lirez l'article qui est sorti dans le métro. On est le 17 décembre. Il y a un article du journal Métro Montréal ce matin. Un des journalistes qui dit sa façon de penser de façon très... c'est rare qu'on voit un texte qui est aussi naturel que ça. Puis il donne un très bon exemple d'un film qu'il a trouvé au Club Vidéo qui est disponible dans tous les Vidéotrons, d'un gars qui viole et se fait faire une fellation par une tête coupée d'une fille dans son truck. Le film commence comme ça, puis après ça, il jette la tête par la fenêtre. C'est 10 fois pire que ce que Rémi fait dans ses films.
Non, ça ressemble.
C'est dans la même veine.
Disons, appelons un chat un chat quand même, là, ça, c'était du viol de cadavre.
Oui, OK, c'est la même chose que Rémi fait, mais ce film-là...
Moi, j'en ai vu, j'ai vu des films espagnols avec des trucs très intenses comme ça. Là,
non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est toujours le débat de la censure. Tu sais, comme, là, il n'y a pas eu personne qui, qui est mort. Puis de toute façon, t'as des gens qui font lire que la Bible toute leur vie, OK, puis qui finissent comme par tuer, puis violer, puis décapiter du monde.
La Bible, c'est assez hardcore. Hein.
Donc, tu sais, je veux dire, je pense que... Puis ben, pour faire un parallèle avec la tragédie qui s'est passée aux États-Unis, moi, j'ai eu un excellent article, tu sais, le gars qui est rentré puis qui a tué 10 enfants. Puis allez sur mon Facebook. Je sais pas, il faudrait que je le publie. Je vais le publier dans le Twitter pour faire référence. C'est un article de Slate, puis c'est une mère d'un gars. Elle dit, je suis la mère d'Adam Lanza. Puis, en fait, on ramène la question à la santé mentale. Elle, son enfant a un problème de santé mentale, puis il est violent, puis c'était le cas du gars qui est allé tuer, puis c'est le gars des tueurs. C'est des problèmes de santé mentale. Donc, c'est pas parce que tu vois une image, t'es déjà fou, là. T'as pas besoin de rien, là, pour être violent, puis aller tuer du monde. Voilà.
Pour finir, je veux dire, la seule chose qu'on peut reprocher à Rémi, c'est de peut-être pas avoir mis d'avertissement sur son site web au départ. Au départ, il y en avait pas.
Non, si, il y en avait. C'est juste que c'était pas un avertissement aussi...
T'es sûr de ça?
Oui, j'ai pas. Non, il y en avait.
Il était pas assez clair.
C'est pas ça, c'est que, genre, il y a des avertissements comme les gens qui référaient à son site. Il n'y avait pas un avertissement qui apparaissait automatiquement. C'est des niveaux de sécurité.
Juste ça. C'est la seule chose qu'on peut penser reprocher.
Ouais. Ouais. Mais c'était une sorte de niveau de sécurité additionné. Puis ça, d'ici dit, ben oui, ça se corrige. Donc, c'était la grosse parenthèse sur Rémi Couture. Puis comme The Thing, quand tu regardes ça à l'époque, je veux dire, c'était du... Il n'y avait pas grand-chose aussi dégueu qui avait été fait. Là.
Ouais, c'était assez... c'était assez avant-gardiste, assez gonflé.
Trucs, mais c'était toujours des trucs dans la marge. Jamais justement un gros film de studio comme là, avec autant de budget.
Et puis on peut-tu dire qu'à partir d'Alien puis The Thing, là, les effets spéciaux, puis peut-être Star Wars un petit peu avant, là, c'est là que ça a commencé.
2001, l'Odyssée de l'espace. C'est pas mal lui qui a parti le bal. Carpenter, son premier film, c'est Dark Star. C'est en quelle année, ça?
Moi, je parle d'effets spéciaux qui sont...
Comme ça?
Oui, mais dans Odyssey, c'est des effets spéciaux, mais je pensais aux effets spéciaux un peu plus gluants, un petit peu plus sanguinants. C'est ça, la qualité là, qui fait en sorte que tu regardes ça et que tu ne partes pas à rire. Comme... On voit des vieux films des années 50, puis on parlait de la planète des singes. Je peux bien croire, mais le maquillage, on c'est pas comparé à... tu le sens, le maquillage, je comprends. Tu as comme une distanciation qui s'installe. Là, quand tu regardes The Thing ou quand tu écoutes Alien, t'es comme genre, tu y crois à mort, à la bibitte. C'est comme une... C'est ça, c'est un summum. Là, c'est
une
maîtrise de l'art.
Ils ont passé une étape.
Je voulais marquer ça. Bon, je sais pas si c'est... Il y a probablement une couple de films qui avaient fait ça, mais il était obscur, peu connu, là, qui avait fait mieux ça que. Mais moi, c'est comme... ça marque là, comme, quand les tentacules ils sortent et tout. Quand... Tu sais, c'est bien fait.
Ouais. On se voit un dernier petit extrait avant de conclure.
Vas-y.
Allez, c'est parti.
You're the only one who made it.
Not the only one.
Did you kill it?
Where were you, Charles?
Thought I saw Blair. I went out after him. Got lost in the storm. Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though.
Neither will we.
How will we make it?
Maybe we should.
If you're worried about me.
If we've got any surprises for each other. I don't think we're in much shape to do anything about it.
Well, what do we do?
Why don't we just wait here for a little while? See what happens.
Bien, bon, un petit mot de la fin? On a tout dit.
On a tout dit. Et moi, je pense qu'on a vraiment pas mal tout dit sur ce film-là.
Ouais. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, ce
qui m'étonnerait... Faut que je regarde vite, mais...
Vous n'avez pas vu, ce qui m'étonnerait, voyez-le, parce que c'est essentiel.
Là, on a tout dit, puis là, il y a des gens qui sont en train de penser, genre, « Ah non, mais vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé
ouais,
de
non,
ça. »
C'est sûr qu'on peut s'étaler encore, mais... ouais. Mais tout, la mise en scène est magnifique, les petits détails, les petites...
On boit encore.
Ouais, on continue.
On recommence.
Allez, on est avec des sacs à vin!
Des ivrognes!
Des sacs à vin!
Je raconte dans la thématique.
C'est parce que c'est le thème de Noël.
Ouais.
c'est l'épisode de Noël.
C'est l'épisode festif.
On veut vraiment une commandite hein, de boissons. Alors, s'il y a des producteurs québécois qui aimeraient faire découvrir leurs produits à notre merveilleux podcast.
Les amis, où est-ce qu'on peut vous joindre en attendant le prochain?
Ben, moi, c'est toujours d'aller faire un tour sur Twitter. Tu écrivais directement 24 quarks secondes, c'est la meilleure façon de me rejoindre, je pense, que de passer.
Ouais.
J'aime bien échanger avec les gens qui me disent.
On n'a pas encore d'adresse dédiée, d'adresse courriel dédiée à 24 quarks, mais ça pourrait...
Non, mais ça va, tu peux écrire, j'ai mis l'adresse de okay. Film Odetti, ça sera.
C'est bien.
Oui, parce qu'on ne veut pas avoir un 28e email.
Non, mais en fait, Google a interdit un certain truc qui me permettait d'avoir...
Oui, c'est vrai, les choses ont changé avec Google.
Ça serait compliqué, oui.
Ouais. Ah là 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 là!
Big Brother.
Et toi, Olivier?
Facebook, toujours là.
Ouais.
Jour, soir, nuit.
Ah, Facebook.
Je suis pas loin.
Et moi, je suis sur Twitter. Steady Nick, comme d'hab.
Ouais,
avec un K et pas CK.
Moi, je suis vraiment Twitter parce que sur Facebook, j'avoue qu'il faut que ce soit des gens avec qui j'ai déjà eu...
Des relations intimes.
Intimes, genre on a échangé une poignée de main.
Voilà.
Donc, je me sers de mon Facebook comme ça.
Tout le reste, ça se trouve sur 24quark.com. Donc, 24quark.com. Je ne le répéterai jamais assez.
Non plus.
Et iTunes. Et donc, Twitter, c'est 24quark au pluriel aussi. Et Facebook, partout. Donc... Venez nous faire des petits commentaires, des petits likes, tout ça, on aime ça.
L'année prochaine, on n'a pas encore fait notre sélection pour 2013.
Bonne année!
Ouais, bonne année! Joyeuses fêtes!
Passez des bonnes fêtes, bonne année, parce que nous, on prend un petit congé, c'est sûr.
On va être absent pendant un petit mois, un truc comme ça, je pense.
Deux, trois semaines, trois semaines comme il faut, là.
De balayer les cadeaux, puis...
Voilà.
C'est ça, puis de cuver le vin.
De cuver le vin.
De prendre 3-4 livres. De faire des résolutions. À moins que la fin du monde nous empêche d'exister, mais nous serons tous dans la même situation.
Mais sinon, on se retrouve. Et donc, on n'a pas encore de film pour la prochaine fois. Ça sera la surprise. On va l'annoncer sur...
Vous pouvez nous suggérer des choses, mais nous,
suggérez-nous des choses, absolument.
On a une liste d'à peu près 254 films qu'on aimerait parler de. Donc, on pourrait faire des saisons et des saisons de 24 quarks.
Mais c'est bien, il y a pas de trucs à faire.
C'est pas ce qui...
Donc, on est ouvert aux suggestions et puis, de toute façon, on fera un point, on avisera à travers le site web et puis la page Facebook, tout ça.
Ah, puis je vais vous passer pendant quand même pour pas que vous vous sentiez trop délaissé. On a refait un petit Olivier qui n'avait pas pu être là à Bataille Royale, on a refait un petit addendum avec lui, donc on va passer ça dans, dans le temps des fêtes. Non, non, je n'ai pas passé encore. J'attendais un petit moment.
Merveilleusement pas d'accord.
Oui, c'est ça. Donc on va vous mettre ça en attendant. Pour les fans de Bataille Royale, on va ajouter ça.
Ça sera le petit After Dark.
Ça sera le petit After Dark. Puis sinon, ben, on se revoit en 2013.
Oui, c'est ça.
Si les Mayas le veulent bien.
Oui, et entre temps.
Ils rient de ça, la fin du monde. Hein. Ils comprennent pas comment on pense que ça vient d'eux, cette interprétation-là. Ils trouvent ça très, très drôle.
Bon, ben quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine fois. Bye bye.
Bye.
Programme complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.
Cheers.
Ce serait quand même pas drôle que ça soit pour de vrai la fin du monde à ce moment-là, parce que là, il y aurait plein de gens qui diraient toutes sortes de niaiseries après, puis on les croirait. Ce serait comme le début des temps des prophéties.